Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 33e de notre 8e saison. Et pour ce Radio Bark donc de fin de saison, je reçois Valérie Broussel, directrice, et Mohamed Béhel, directeur scientifique du musée Narbovia. Un musée qui a à peu près une année maintenant, qui est entré dans les mœurs, mais qui, auparavant, pendant des décennies, avait fait couler beaucoup d'encre. Et j'aimerais revenir un petit peu justement sur ce thème-là, sur cette notion-là, dans une première partie, puisque construire un musée de la Romanité à Narbonne, c'est à la fois une évidence, pour certains, puis en fait, un véritable pari, un défi, voire une gageure, puisque contrairement à certaines villes comme Nîmes, Arles, Orange, il n'y a plus rien de visible. Et pendant un certain temps, d'ailleurs, on semblait avoir oublié un certain nombre de choses. Donc finalement, à un moment quand même, bon, certaines personnes prennent le taureau par les cordes, si je puis dire. Alors, Jacques Michaud, président de la commission archéologique, l'est depuis des décennies, donc forcément, dans des instances comme ça, on savait. Lui-même, connaissant Georges Frêche, professeur de droit romain à la faculté de Montpellier, et homme politique très engagé, avait eu peut-être une idée de ce qu'un jour les choses pourraient être, mais l'histoire, la petite histoire ou la légende veut que dans les années 70, Monsieur Frêche, élu récemment maire de Montpellier, était venu à l'église de Mourguier, avait découvert tout ça, et forcément pour quelqu'un de sa science, ça pouvait pas durer comme ça ne pouvait pas être acceptable en situation, et il avait lancé la notion, il faudra construire à Narbonne un musée de la Romanité. Bon. Il a fallu quand même attendre que M. Frêche soit président de la région, pour qu'il ait un pouvoir et un financement possible, pour que les choses se mettent véritablement sur les rails. Alors Valérie Broussel, donc, vous qui êtes directrice de cet établissement, essayez de nous faire un petit historique en tenant compte justement de ce fameux défi à relever.
Alors, vous avez bien commencé cette historique en racontant cette légende d'une amitié entre le président de la commission archéologique, Jacques Michaud, et un de ses collègues ou anciens collègues, Georges Frêche, à l'université de Montpellier. Je vais reprendre à partir du projet de musée tel que Georges Frêche l'a lancé en 2010, quelques mois avant de décéder. Puisqu'on part sur le lancement d'un concours d'architectes et on pose clairement ce défi aux architectes consultés, enfin qui souhaitent relever le gant de ce concours, qui est de dire non pas il ne subsiste rien, il subsiste des choses, puisqu'il subsiste des vestiges, il subsiste l'auréum, il subsiste le clos de la Lombarde, hein, on est en 2010, hein, tout ça est bien connu. Il subsiste des fragments qui sont insérés dans des murs de la ville, hein, et puis il subsiste des collections qui sont soit dans l'église La Mourguier, soit au palais musée des archevêques, soit dans les réserves de l'État et de la ville de Narbonne. Et cet enjeu de faire ressurgir une ville majeure de la Romanité, une capitale complètement disparue, est posé aux architectes qui sont consultés. Et l'un de ces architectes est l'agence Foster and Partners qui va relever le gant et travailler tout son projet autour de cette notion de fragments, de vestiges archéologiques et de reconstitution de monuments ou d'une cité disparue à partir des vestiges qui étaient conservés. Et il faut bien dire que les vestiges conservés représentaient des collections qui étaient très importantes à la fois en nombre, mais aussi en qualité et parmi les plus importantes de France et d'Occitanie. Mmh.
Alors donc, petite parenthèse, chez Georges Fraisse, la notion d'aller chercher un architecte renommé, ça faisait partie un petit peu de sa politique, ce qui n'est pas absurde aussi dans la mesure où ça attire l'attention sur le bâtiment. Mais selon ce que vous dites, Valérie Broussel, dès le début, il y a un état des lieux qui est fait sans complaisance, en toute réalité. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on n'a pas, mais on sait véritablement ce qu'on a.
Bien sûr, c'est peut-être Mamed qui va répondre à ça, parce que ce sont les inventaires des conservateurs de musées réalisés à partir des rapports de fouilles hein, et des découvertes archéologiques qui permettent de déterminer ce que les professionnels, les archéologues, ont fait surgir du sol à chaque fois qu'ils ont été appelés.
On sait ce qu'on a et on va établir un cahier des charges à partir de là, Monsieur Béhel.
Oui, bien sûr. Donc Narbonne n'avait pas de monument présent, mais en fait tous les indices montraient que c'est une grande capitale où il y a pas mal de collections qui sont présentées, même si c'était mal présenté peut-être dans l'église de la Morguillée qui était le musée lapidaire et dans le palais des archevêques. Donc ça montrait que la ville était très riche et qu'il y a un potentiel pour créer quelque chose de plus prestigieux, pour redonner, faire revivre la supériorité de Narbonne à l'époque romaine. Mmh. Donc c'est de là, et en plus il y a les écrits, et même la visite de Prosper Mérimée au XIXe siècle, il a commencé par dire la ville de Narbonne, quand il a vu les enceintes de la ville, il a décrit les murs comme un musée à ciel ouvert.
Oui.
Donc déjà, Prosper Mérimée, il a évoqué cette richesse
et cette romanité quand même.
Voilà, oui. À travers sa visite.
Pas seulement le côté médiéval, mais la romanité.
Voilà, mais la romanité, parce que la majorité des collections qu'on a soustraites dans les enceintes sont des collections romaines.
Oui, et alors ces pierres, puisqu'on avait une quantité, alors je ne sais pas combien de centaines de pierres. Oui.
Des milliers.
Ou des milliers. apparemment, certaines ont une histoire un peu particulière. Elles avaient été réintégrées lorsque François Ier a fait refaire des remparts au XVIe siècle. Ouais. Elles avaient été intégrées sur demande, paraît-il, roi.
Du roi, pour décorer les entrées des portes avec tous les blocs qui représentent des figures importantes, et on a décoré les portes d'entrée comme la porte de Béziers, la porte de Perpignan, et ça a été décoré par des blocs d'époque romaine.
Voilà, donc il y avait déjà une conscience un petit peu de ces restes de pierres romaines.
Ces restes, et c'est là, après cette histoire du roi de François Ier. Donc c'est la commission archéologique qui a repris le flambeau en défendant, parce qu'on allait jeter ces blocs après la destruction des murs de la ville, et grâce à eux, ces murs ont été préservés.
Donc on les a récupérés une fois encore.
Une fois, et sauvés. Parce que,
sauvés, oui, bien sûr.
Il y en a pas mal qui sont partis, qui ont été réemployés partout ou cassés carrément.
Voilà. Mais on en a gardé quantité et qu'on a aligné là où on avait la place à la Morguillée.
Dans l'église de la Morguillée qui est devenue le musée lapidaire. Mmh. Et en fait, on les a installés en forme de mur d'ailleurs. On a gardé cette description des murs et qui ont été reportés sur la présence des blocs dans le musée lapidaire.
Et ça date de la destruction des remparts, c'est-à-dire année 1880,
la fin du 19e siècle.
Donc c'est pour resituer ça dans l'histoire.
Voilà.
Et ça a attendu sagement pendant un bon siècle.
Un bon siècle pour réemployer ailleurs que dans l'église de la Morguillée. Ouais. Et d'ailleurs, l'église de la Morguillée, on a des textes de chercheurs qui analysait la situation, comme quoi c'est un endroit où on rentrait, on ne savait pas comment on allait s'en sortir, parce qu'il fallait enjamber les blocs, chercher les blocs partout, alors que là, la facilité, c'est que les blocs, ils sont aérés.
Ouais, on va revenir sur les techniques, les technologies qui ont permis de mettre tout ça en valeur, mais il était intéressant d'expliquer comment, 2000 ans plus tard, on retrouve encore un certain nombre de pierres, alors qu'on aurait pu penser qu'elles avaient disparu. Oui, Valérie Broussel.
Cette histoire du remploi, c'est une histoire qui vient des Romains, puisque ce sont les Romains eux-mêmes qui avaient détruit les monuments.
Voilà, contrairement à ce que l'imagerie populaire voudrait croire que ce sont les invasions barbares, c'est pas le cas, paraît-il.
Alors, ce sont les Romains eux-mêmes qui ont détruit les monuments pour les réutiliser, les remployer dans ce qui leur était utile, et en l'occurrence, ce qui leur était le plus utile, c'était les premiers remparts de Narbonne. Donc, tous ces blocs, qui viennent principalement de monuments funéraires, ont été remployés par les Romains eux-mêmes dans les premiers remparts. Et finalement, François Ier, à l'époque de la Renaissance, où l'on redécouvre l'Antiquité, où on la remet à l'honneur, reprend cette coutume dans les remparts qu'il fait reconstruire, en les valorisant un peu plus qu'ils n'étaient dans les anciens remparts où ils avaient été remployés comme on le pouvait. Il faut savoir que les Romains eux-mêmes, quand ils n'avaient plus l'utilité d'une maison, d'un monument, c'était une obligation.
De détruire et de remployer.
Oui. C'était une obligation. C'était dans leur devoir.
Et donc, ça explique peut-être mieux les choses.
Exactement. Oui. Exactement. Oui. C'est comme si aujourd'hui, à chaque fois que vous laissez une maison, vous aviez la loi vous obligeait à faire un chantier de démolition, pour réutiliser pour recycler le matériau.
Voilà.
Parce que le matériau ne se trouvait pas facilement et donc il ne fallait pas gâcher.
Oui, quand on avait les belles pierres, on voulait les faire passer à la postérité.
Exactement.
Ils ont créé le recyclage avant.
Ah oui, oui, oui.
Qui est d'actualité maintenant.
Et ça, apparemment, c'était une erreur très répandue. On pensait que c'était les Visigoths qui avaient tout cassé en arrivant, ou les Sarrasins, ce qui n'est pas le cas.
Pas du tout.
Oui, oui, oui. Ça, c'est très important parce que maintenant, on comprend mieux avec le recul les choses. Alors, il y a toutes ces pierres, on les a évoquées, et on va revenir tout à l'heure dans une seconde partie sur la technologie de leur mise en valeur, mais il n'y avait pas quand même que ces pierres, Valérie Boussel.
Non, puisque les fouilles archéologiques sur Narbonne l'ont montré.
On a 40 ans là, au clos de la Lombarde de fouilles qui ont...
Oui, pour le clos, 40 ans, mais les fouilles ont commencé dès le 19e siècle.
Oui.
Donc, bien sûr, on a de la céramique, bien sûr, on a des amphores, on a du lapidaire, on l'a dit. Que ce soit du lapidaire qui vient de monuments funéraires ou du lapidaire qui vient de monuments comme des temples, comme le Grand Temple, qu'on appelle aujourd'hui Capitole. Et puis, on a les fouilles du clos qui nous ont donné une magnifique série d'enduits peints. Et on a aussi beaucoup de statuaires, beaucoup de décors et beaucoup de petits objets de la vie quotidienne, en céramique, je l'ai dit, en métal, en os, en verre.
Oui,
on n'a pas que du lapidaire.
Voilà. Encore une autre erreur peut-être répandue à chasser. Il n'y avait pas que des pierres. Il y avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient susceptibles d'entrer dans la réalisation d'un musée.
Oui, bien sûr. Mmh. Il y avait pas mal d'objets, ce qu'on appelle instrumentum aussi, donc des matériels.
Oui. Alors on va revenir dans une deuxième partie sur toutes ces choses-là concrètes. On marque une première pause.